Théophile Gautier, Les Jeunes Frances, Elias Wildmanstadius ou L'Homme Moyen-Âge. En exergue, Laudator Temporis Sacti, louangeur du temps passé, Horace, La cathédrale rugueuse était sa carapace, Victor Hugo. Parmi les innombrables variétés de Jeune France, une des plus remarquables, sans contredit, est celle dont nous allons nous occuper. Il y a le Jeune France byronien, le Jeune France artiste, le Jeune France passionné, le Jeune France viveur, chiqueur, fumeur, avec ou sans barbe, que certains naturalistes placent entre les pachydermes et d'autres dans les palmipèdes, ce qui nous paraît également fondé. Mais de toutes ces espèces de Jeune France, le Jeune France Moyen-Âge est la plus nombreuse, et les individus qui la composent ne sont pas médiocrement curieux à examiner. J'en chercherai un entre tous, amis lecteurs. Il pourra te donner une idée du genre, si tu n'as pas eu le bonheur d'en voir un vivant ou empaillé. Comme il est mort, je puis te dire son véritable nom. Il se nommait Elias Wildmanstadius. C'était un très beau nom pour un homme Moyen-Âge, d'autant que ce n'était pas un pseudonyme. Je vous prie, lecteur, de ne pas trop rire de lui, car c'était mon ami, et il fut sincère dans sa folie, bien différent de tant d'autres qui ne le sont que par mode et par manière. J'espère que vous me pardonnerez l'espèce de teinte sentimentale répandue sur ce récit. Songez qu'Elias Wildmanstadius fut mon plus cher camarade et qu'il est mort, et d'ailleurs j'ai besoin de faire reposer un peu mes lèvres, qui depuis 300 pages environ se tordent en ricanement sardonique. L'ange chargé d'ouvrir aux âmes la porte de ce monde, par la plus inexplicable des distractions, n'avait livré passage à la sienne qu'environ 300 ans après l'époque fixée pour son entrée dans la vie. Le pauvre Elias Wildmanstadius, avec cette âme du 15e siècle au 19e siècle, ses croyances et ses sympathies d'un autre âge au milieu d'une civilisation égoïste et prosaïque, se trouvait aussi dépaysé qu'un sauvage déborde l'Orénoque dans un cercle de la fashionable parisien. Se sentant gauche et déplacé dans cette société pour laquelle il n'était pas fait, il avait pris le parti de s'isoler en lui-même et de se créer une existence à part. Il s'était bâti autour de lui un Moyen-Âge de quelques toises carrées, à peu près comme un amant qui, ayant perdu sa maîtresse, fait lever son masque en cire et habille un mannequin des vêtements qu'elle avait coutume de porter. À cet effet, il avait loué une des plus vieilles maisons de S, une maison noire, lézardée, aux murailles lépreuses et moisies, avec des poutres sculptées, un toit qui surplombe, des fenêtres en ogive, aux carreaux en losange, tremblant au moindre coup de vent dans les résilles de plomb. Il la trouvait un peu moderne, elle ne datait que de 1550 tout au plus. Quelques bossages vermiculés, quelques refends, quelques essais timides de colonnes corinthiennes, où le goût de la Renaissance se faisait déjà sentir, gâtaient à son grand regret la façade de la rue et altéraient la pureté toute gothique du reste de l'édifice. C'était d'ailleurs la maison la plus incommode de toute la ville. Les portes mal jointes, les châssis vermoulus, laissait passer la bise comme un crible. La cheminée au menton blasonné, sous lequel toute une famille se fut assise, eut avalé un chêne entier à chaque bouchée de sa gueule énorme. Il eut fallu 2 hommes pour changer de place ces lourds chenets de fer ornés de grosses boules de cuivre, les tapisseries de haute lisse représentant des passes d'armes et des sujets de chevalerie s'en allaient en lambeaux. Les murs suaient à grosses gouttes à force d'humidité. Quelques tableaux noirs et enfumés étaient pendus, çà et là, dans leurs cadres poudreux. Pour compléter l'illusion, Elias Wildmanstadius avait rassemblé à grands frais les meubles les plus anciens qu'il put trouver. de grands fauteuils de chêne à oreillettes, couverts de cuir de cordoue avec des clous à grosse tête, des tables massives aux pieds tordus, des lits à estrade et à baldaquin, des buffets d'ébène incrustés de nacre, rayés de fil d'or, des panoplies de diverses époques, tout ce bagage rouillé et poussiéreux qu'un siècle qui s'en va laisse à l'autre comme témoin de son passage, et que les peintres disputent aux antiquaires chez les marchands de curiosités. Afin d'être assorti à ces meubles et de ne pas faire dissonance, il portait toujours chez lui un costume du Moyen-Âge. Rien n'était plus divertissant que de le voir, ce bon Elias Witzmannstadius, avec un surcot de samite armorié, des jambes mi-parties, des souliers à la poulaine, les cheveux fendus sur le front, le chaperon en tête, la dague et l'aumônière aux côtés, se promenait gravement à travers les salles désertes comme une apparition des temps passés. Quelquefois, il se revêtait d'une armure complète et il prenait un grand plaisir à entendre le son de fer qui le rendait en marchant. Cet amour de l'Antiquité s'étendait jusque sur la cuisine. Il fallait mettre sur sa table des drageoires et des hanaps. Il ne voulait manger que faisans avec leurs plumes, pain rôti ou toute autre viande chevaleresque. Dès qu'il voyait paraître quelques mets plus bourgeois et plus confortables, il entrait en fureur, et il aurait presque battu Martine, sa vieille gouvernante, lorsqu'elle lui versait du faro ou du lambic au lieu d'hydromel et de cervoise. Par le même motif, il n'admettait dans sa bibliothèque aucun livre imprimé, à moins que ce ne fût en gothique, car il détestait l'invention de Gutenberg autant que celle de l'artillerie. En revanche, les rayons étaient chargés de force beaux manuscrits sur vélin, au coin et au fermoir d'argent, à la reliure de parchemin ou de velours. Il admirait avec une naïveté d'enfant les images des frontispices, les fleurons des marges, les majuscules ornées au commencement des chapitres. Il s'extasiait sur les roides figures des saintes aux cils et aux prunelles d'azur, les beaux anges aux ailes blanches et roses. Il avait peur des diables et des dragons, et croyait à toute légende, si absurde qu'elle fût, pourvu que le texte fût en bonne gothique, ligaturée et le titre en grandes lettres rouges. En peinture, ses opinions étaient fort étranges. Au-delà des tableaux du XVe siècle, il ne voyait plus rien. Il n'aimait que Mabuse, Jacquemin, Gringoneur, Giotto, Perugine et quelques peintres de ce genre. Raphaël commençait à être trop nouveau pour lui. De la musique telle que l'ont faite Rossini, Mozart et Weber, il ne connaissait rien. Au lieu du « Di tanti palpiti », il chantait « Tout est verdore, la tinte l'ore, tout est velore, belle gote » de la défaite des Suisses à Marignan par Clément Jeannequin ou quelque autre air d'Ockenheim de Francesco Rossello, de Constantio Festa ou d'Obrecht. Il n'allait pas plus loin. Pour les instruments dont on se sert aujourd'hui, il n'en savait pas le nom. En récompense, il savait à merveille ce que c'était qu'une sambuque, des naquères, des régales, une épinette, un psalterion et un rebec. Il en eut même joué au besoin. En littérature, il eut cité juste le plus obscur roman. Parthenopeu de Blois, Huon de Bordeaux, Attis et Prophylas, le Saint Graal, Dolopathos, Perceforet et mille autres. Il ne se doutait pas de Byron et de Goethe. Il vous eut raconté de point en point la chronique de tel roi Telet-Breton antérieur à Gralon et à Conan, et vous l'eussiez fort surpris en lui parlant de Napoléon. Lorsqu'il était forcé d'écrire à quelqu'un, c'était dans un style si plein d'archaïsme, avec un caractère si hors d'usage, qu'il était impossible d'en déchiffrer un mot et qu'il fallait en déférer au chartrier de la ville. Sa conversation était hérissée d'expressions vieilles, de tours tombés en désuétude, si bien que chaque phrase était une énigme et qu'il y fallait un commentaire. Pourtant, avec tout cela, il avait une âme aimante et pieuse. Il comprenait l'art, mais l'art naïf et qui croit à son œuvre, l'art gothique, patient et enthousiaste, qui fait des miniatures géantes, des basiliques travaillées en bijoux, des clochers de 200 pieds, finis comme des chatons de bague. Il sentait admirablement bien l'architecture. Il eût trouvé Notre-Dame et la cathédrale de Bourges si elles avaient été à faire. 300 ans plus tôt, le nom d'Elias Witzmannstadius nous fut parvenu, porté par l'écho des siècles, avec ces quelques noms rares qui surnagent et ne meurent point. Mais, comme beaucoup d'autres, il avait manqué son entrée en ce monde, il n'était qu'une espèce de fou. Il eût été un des plus hauts génies, sa vie eût été pleine et complète, il était obligé de se créer une existence factice et ridicule, et de se jouer lui-même de lui. Choqué de la tournure bourgeoise et mercantile des habitants, de la monotonie anti-pittoresque des maisons neuves, il en était réduit à ne pas sortir, ou s'il le faisait, ce n'était que pour visiter, pour fureter, dans tous ses coins, sa bonne vieille cathédrale. C'était le plus grand plaisir qu'il eut. Il y restait des heures entières en contemplation. Le clocher déchiqueté à jour, les aiguilles évidées, les pignons taillonnés en scie, les croix à fleurons, les guides et les tarasques montrant les dents à l'angle de chaque toit, les roses des vitraux toujours épanouies, les trois porches avec leurs collerettes de saint, leurs trèfles mignonnement découpés, leurs faisceaux de colonnes élancées et fluettes, les niches curieusement ciselées et toutes folles d'arabesques, les bas-reliefs, les emblèmes, les figures héraldiques, la plus petite dentelure de cette broderie de pierre, la plus imperceptible maille de ce tulle de granit, il aurait tout dessiné sans rien voir, tellement il avait présent à la mémoire jusqu'au moindre détail de son église bien-aimée. La cathédrale, oh, c'était sa maîtresse à lui, la dame de ses pensées. Il ne lui eût pas fait infidélité pour la plus belle des femmes. Il en rêvait, il en perdait le boire et le manger. Il ne se trouvait à l'aise qu'à l'ombre de ses vieilles ogives. Il était là, chez lui. Le fond était en harmonie avec le personnage. À force de vivre avec les colonnettes fuselées, au milieu des piliers sveltes et minces, il en avait en quelque sorte la forme. À le voir si maigre et si long, on l'eût pris pour un pilier de plus, ses cheveux bouclés ne ressemblant pas mal aux acanthes des chapiteaux. Il avait étudié à fond l'histoire de la basilique et de sa construction. Il vous eût dit précisément à quelle année avaient été bâtis le chœur et l'abside, le maître-autel et le jubé, la nef et les chapelles latérales. Il avait constaté l'âge de chaque pierre. Il savait combien avait coûté la menuiserie des stalles, du banc de l'œuvre et de la chaire. Ce qu'il avait fallu de temps pour poser la clé de voûte, suspendre la lancette et le pendentif. Il lisait couramment les inscriptions de toutes les tombes. Il expliquait les blasons. Il connaissait le sujet de tous les tableaux et de toutes les peintures des vitrages. Il vous eut conté comment l'orgue, don d'un empereur d'Orient, était le premier qu'on eût vu en Europe. Et bien d'autres, si vous l'eussiez laissé faire, car il ne tarissait pas sur ce sujet. Et quand il en parlait, sa figure s'animait singulièrement, ses yeux d'un bleu terne brillaient d'un éclat extraordinaire. Cette pauvre âme, oubliée dans un coin du ciel par son ange gardien, amoureux sans doute de quelque Eloa, et jeté ensuite dans un monde dont toutes ses sœurs s'en étaient allées, nageait alors dans une joie ineffable et pure, elle se croyait en 1500. Et pour tromper son ennui, le bon Elias Witzmannstadius sculptait avec un canif de petites cathédrales de Liège, peignait des miniatures à la manière gothique, transcrivait de vieilles chroniques et faisait des portraits de vierges avec des auréoles et des lames d'or. Il vécut ainsi fort longtemps, peu compris et ne pouvant comprendre. Sa fin fut digne de sa vie. Il y a 2 ans, le tonnerre tomba sur la cathédrale et y fit de grands ravages. Et par l'effet d'une sympathie mystérieuse, le bon Elias mourut de mort subite, précisément à la même heure, dans sa maison, c'est celle qui fait l'angle du vieux marché où l'on voit une madone, assis dans un grand fauteuil, au moment où il achevait un dessin de la cathédrale. On l'enterra, comme il l'avait toujours demandé, dans la chapelle où il avait passé tant d'heures de sa vie, sous la pierre qu'il avait usée de ses genoux. Il est maintenant là-haut, en compagnie des chérubins, de la Vierge et des saints qu'il aimait tant, dans son beau paradis d'or et d'azur, et sans doute il ne manquerait rien à son bonheur, si l'épitaphe de son tombeau n'était pas en style et en caractère évidemment moderne.